RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after en ce dimanche avec plein de choses à dire autour de Nantes PSG, notamment la victoire du PSG 1-0, le but de Di Maria dans l'after ce soir comme tous les dimanches. Daniel Riolo, salut Daniel.
Salut les amis.
Et Pierre Ducrot, re-salut Pierre.
Bonsoir à tous.
Puisque comme tous les dimanches, tu nous accompagnes pour le match sur RMC et l'after en plus sur BFM Sport. Alors Paris s'est donc imposé 1-0, mais on va revenir à la fois sur ce qu'on a vu sur le terrain et sur cette image incroyable de fin de rencontre. L'arbitre du match, Tony Chaperon, si vous n'avez pas vu ça, qui met un coup de pied à un joueur, Diego Carlos. Enfin, il le tente, il le rate un peu, mais dans le feu de l'action quand même, il a l'intention de vouloir lui mettre un coup de pied.
C'est il est fatigué, il est plus lucide, il est fatigué, Tony Chaperon. Voilà. C'est un mauvais réflexe.
On va y revenir, évidemment, avec en plus les réactions à la Beaujoire grâce à nos envoyés spéciaux. Je vous rappelle les scores donc aujourd'hui. Paris, match de 21h, s'est imposé 1-0 à Nantes grâce à Di Maria. Le PSG qui compte désormais 11 points d'avance sur l'AS Monaco, son dauphin. Un peu plus tôt dans la journée, on essaiera d'en dire un mot également, évidemment, comme tous les dimanches. Lyon a fait match nul un partout face à Angers, but de Fekir qui égalise après le but sur pénalty de Toko Ekambi. Jean-Michel Aulas notamment s'est plaint de l'arbitrage envers Nabil Fekir, pas assez protégé selon lui. Et puis Saint-Etienne s'est imposé 2-0 face à Toulouse grâce à Biric sur pénalty et à Dius. Les Toulousains sont avant-derniers au classement relégable donc ce soir. Et puis à l'étranger, on sera avec Philippe Auclair tout à l'heure pour revenir sur cet incroyable Liverpool-Manchester City. Victoire 4-3 de Liverpool. Il y a plein de choses à dire également sur cette rencontre. Il y aura un amuse-bouche avec Philippe avant le plat de résistance demain dans l'after du lundi bien sûr, mais on en dira un mot avec lui. Et puis, si vous n'avez pas suivi, le Barça s'est imposé 4-2 sur le terrain de la Real Sociedad après avoir été mené 2-0 dans cette rencontre, doublé notamment de Luis Suarez. On y va pour les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, quels sont tes 3 points?
Le premier, c'est sur le match du PSG. C'est le deuxième d'affilée qui n'est pas bon. Ce soir, j'ai vu un petit PSG, même s'ils ont contrôlé l'essentiel du temps, mais sans efficacité, sans proposer quelque chose de fantastique au niveau du jeu. Mon deuxième point, c'est Nantes. Je mets réveil tardif parce que finalement ils n'ont joué qu'une mi-temps. C'est déjà contre le PSG, si t'en joues deux, t'as pas beaucoup de place pour gagner. Mais attendre le retour au vestiaire, te faire sermonner par ton coach en disant mais arrêtez de les regarder, essayez de jouer, et puis tu reviens, t'as de meilleures intentions. À l'arrivée, t'as des regrets. Le mieux en sport, c'est de pas en avoir. Là, je pense qu'ils doivent en avoir quelques-uns parce que contre ce PSG là de ce soir, il y avait peut-être moyen de prendre au moins un point. Et mon troisième concerne l'un des deux matchs de l'après-midi, mais celui de Lyon. J'ai trouvé les Lyonnais pour cette reprise 20e journée, donc premier match de championnat de 2018, insuffisant. Eux, un petit peu comme les Nantais, quoi. Ils ont raté leur début de match. Ils prennent ce but et puis derrière, ils ont fait que courir derrière. Et plus le match avançait, plus ils pressaient. Puis évidemment, ça s'est terminé dans un scénar classique avec on attaque et l'autre défend. Voilà, tu tombes sur un gardien qui te fait un ou deux exploits. T'as pas ton avant-centre pour te mettre les buts. Et bon, tu te retrouves à faire un partout contre Angers. Le résultat peut-être le plus inattendu de cette journée de championnat.
Ouais. Pierre, tes 3 points.
Alors c'est marrant parce qu'on a j'ai pas vécu le match pareil que Daniel finalement, parce que ton premier point Daniel c'est un PSG,
petit PSG
poussif quoi. Ouais. Ouais, poussif. Moi j'ai mis un, alors c'est le deuxième point mais c'est pas grave, non il est en premier, c'est parfait. J'ai mis PSG 1 et PSG 2 parce que pour moi le PSG en première période, wow, est plutôt dans la conservation du ballon, ils mettent du rythme, ils essayent, mais il y a en face un très bon pressing des Nantais. Moi j'ai trouvé que c'était très bien organisé une fois de plus
en première période.
Il y a eu un pressing haut des Nantais.
Pendant combien de secondes?
Ah non. Alors, honnêtement, attendez, alors moi en tout cas ce que j'ai vu,
on fait juste les 3 points et après on revient exactement sur le déroulé du match.
Ce que j'ai vu, et j'en viens à mon deuxième point, c'est que le pressing nantais en première mi-temps était... Attends, je vais finir mes 3 points, tu vas voir, on en parlera après, mais le pressing nantais pour moi en première période, il était très bon, et malgré ça, le PSG a réussi à conserver le ballon. Il s'est pas procuré énormément d'occasions, mais il a réussi techniquement à s'en sortir. Il y a pas beaucoup d'équipes qui s'en seraient sorties, pour moi en tout cas c'est ce que j'ai vu. Et en deuxième période, t'as un PSG qui est mon PSG 2 qui est pas là, qui est poussif, qui est insuffisant. Là, je te rejoins, c'est le PSG que tu dis avoir vu, effectivement. J'ai vu le même en seconde période, et ça correspond aussi avec mon FC Nantes organisé, mais pas que, parce que après l'organisation, après le tactiquement et le pressing bien opéré par les Nantais, il y a eu l'utilisation du ballon en seconde période par les Nantais. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Et puis je voulais saluer, j'ai failli parler aussi moi de Lyon, mais finalement j'ai parlé de la Beaujoire parce que je l'ai trouvé très très belle, la Beaujoire, ce soir. Je me suis régalé à voir les tribunes derrière les joueurs, et ça a pas arrêté du début à la fin, et ça participe pour moi à avoir des bons matchs de Ligue 1 le dimanche soir quand t'as des tribunes comme ça.
Et pour nous qui étions à la radio, très agréable en
exactement.
Plus l'ambiance hein, en permanence. Mes trois points, moi écoutez, je suis aussi proche que vous. Nantes, je trouve, fait quand même globalement un bon match. Les Nantais pas payés pour leur deuxième période. Je voulais qu'on s'intéresse aussi au choix d'Unai Emery. Alors on en a parlé pendant le match, mais j'aimerais bien, Pierre, que tu réexpliques aussi pendant l'after ton point de vue, parce que à première vue, deux changements sur trois qui sont assez défensifs à chaque fois.
Ils ont terminé en 4-5-1.
Voilà, exactement. Il n'y avait plus qu'un seul attaquant.
Mais je pense qu'il s'est aperçu qu'il pourrait pas faire mieux aujourd'hui.
Alors voilà, mais alors
je trouve qu'il a plutôt bien analysé le truc. Il dit mon équipe elle y est pas.
Moi je dis pas que
ça a cassé un peu la dynamique de Nantes.
Alors juste quand on est rentré. Je dis pas c'est mauvais ce qu'a fait Emery ou pas, mais comprendre les choix. Pourquoi on finit comme ça alors qu'on peut se dire attention dans les gros matchs à pas retrouver cette frilosité quand justement il faudra pas montrer de peur sur le terrain. Et puis dernier point quand même, Tony Chaperon. C'est l'image de la soirée. Donc voilà, c'est pour le clin d'œil, parce que au niveau du jeu du foot, ça va pas aller plus loin que ça, mais quand même ça va faire partie de l'après-match, ce geste incroyable de Tony Chaperon. Alors sur le déroulé du match, vous étiez pas d'accord sur le niveau du PSG, c'est là où vous êtes en désaccord.
Ou même sur le pressing nantais peut-être apparemment.
Enfin moi l'intention nantaise qui était de presser, d'être agressif, pour moi, je sais même pas si j'arrive à le compter en minutes. Je pense que ça a duré une poignée de secondes, allez peut-être deux minutes, le temps que le PSG mette le pied sur le ballon et mette en place son jeu et déroule. Effectivement, ils ont eu une maîtrise totale, mais qui ne s'est concrétisée au final que par deux occasions, celle qui a amené le but et celle que Di Maria rate, mais alors complètement et de façon assez dingue
sur
l'action magnifique
sur
qui
le
se
contre,
termine par cette passe en profondeur, cette diagonale limpide de Rabiot, il met le ballon dans les choux, je sais même pas où il a mis le ballon quoi. Au-delà de ça, il n'y a pas eu d'autres occasions pour le PSG.
Il y en a une autre de Di Maria quand il ouvre trop son pied en retrait en deuxième période. Ballon en retrait.
Je parle de la première période.
Ah, que sur la première, d'accord.
Il y a le but et ce ballon là.
Ouais.
Donc effectivement, ils ont une très bonne maîtrise. Ils arrivent même à enchaîner assez vite dans les transmissions. Plutôt un jeu agréable, mais qui finalement crée peu offensivement. Et Nantes, pour moi, ils sont totalement spectateurs. En première période, ils ne font rien. Ils ont un bloc
qui est
à l'entrée de la surface. Ils font pas grand chose. Visage totalement inverse en seconde période où ils doivent passer de, je sais pas moi, du 30% de duels gagnés à plus de 70% de duels gagnés. Ils sont beaucoup plus agressifs. Tactiquement, il n'y a pas grand chose de différent, si ce n'est qu'ils sont plus hauts et qui sont dans tous les duels. Beaucoup plus agressif, et ça change un peu le visage des Nantais et des Parisiens qui ne sont plus du tout dans le confort de la gestion et terminent, se dit, en 4-5-1 à devoir rentrer Nkunku, monter Dani Alves, sortir Cavani, terminer avec le seul Mbappé. Toute petite victoire du PSG pour moi ce soir.
Alors tu vois, là où il y a une différence avec Daniel, c'est qu'effectivement la différence en deuxième période. Alors déjà moi je vois un pressing beaucoup plus marqué des Nantais au moins pendant 20-25 minutes.
Mais quand, Pierre, à quel moment tu vois ça de la
première à la 20-25e minute et très très souvent t'as eu des Parisiens qui là je te rejoins, qui ont bien fait tourner le ballon, qui honnêtement en première période ont été efficaces dans la position
de
balle.
Et le bloc, ils étaient tout bas, ils pressaient
faudrait qu'on le revoie ensemble, parce qu'il y a plein de situations, moi je me rappelle de passes où tu élimines 4-5 Nantais qui sont très hauts au pressing. Et si tu fais ces passes-là qui éliminent les Nantais, effectivement, c'est parce que les Nantais étaient hauts au pressing. Faudrait qu'on voit des phases ensemble.
Mais différence de vue, moi je les vois tellement spectateurs.
Ouais, souvent on est d'accord, mais c'est vrai que là moi j'ai vu des. D'ailleurs, on l'a souvent dit même en direct à l'antenne, quoi. Il y avait un vrai pressing haut des Nantais. Parfois même.
Si tu me dis qu'ils pressent en étant bas, ce qui est également possible, ok, mais pas haut.
Ils étaient 15 mètres au-delà du milieu de terrain, ce qui est contre le PSG. Je te dis pas toute la première période, c'est impossible à faire déjà.
C'est ça,
mais
c'est
dans les 20-25 minutes, il y a eu de nombreuses phases comme ça.
Je ne les ai vues que spectateurs.
Et par contre, là où.
J'ai pas vu Dubois avec le ballon, j'ai pas vu Rongier avec le ballon, j'ai. Bah, il y a des noms.
Alors non, attends, je te dis pas qu'ils ont eu le ballon haut, je te dis qu'ils sont venus presser haut, et je te dis que les Parisiens en première période ont réussi à s'en sortir, justement.
J'ai même pas entendu leur nom, quoi.
Oui, non, mais quand t'as des joueurs au pressing, tu sais, enfin, voilà, on les entend pas. Quand les Parisiens font bien circuler le ballon et s'en sortent, justement, et cassent cette première ligne du pressing, effectivement, les Nantais, tu t'entends pas leur nom, parce qu'ils sont au pressing haut, mais ils passent au travers. Après, c'était bien organisé, et souvent.
Je les ai vus très bas.
Moi, écoute, je les ai vus, on sera pas d'accord, mais faut à la limite qu'on voit la première période ensemble pour voir. Ce qu'on a
à 1h du mat,
après le poker.
Ou plus tard. Et par contre, là où moi ça diffère, c'est qu'en deuxième période, je pense pas qu'il y ait des Nantais qui soient vraiment plus d'envie, plus de hargne ou plus de niaque. Je pense qu'il y a des Parisiens, par contre, qui ne jouent pas du tout pareil dans la conservation du ballon, qui sont j'ai pas envie de dire suffisant, parce que c'est peut-être pas ça, mais qui font un peu moins d'efforts, qui sont un peu moins mobiles, donc il y a moins de solutions pour les porteurs de ballon.
Et d'un seul coup, c'est bien plus haut. Le bloc, il est beaucoup plus haut, le bloc nantais.
Non, je suis pas d'accord. Il y a eu de nombreuses phases en première période où le bloc nantais était haut aussi. Mais par contre, les Parisiens ont eu une conservation du ballon rythmée, rapide dans les transmissions,
en fait,
et ont réussi à passer ce pressing.
C'est que toi, Pierre, tu dis la variable du match, c'est le PSG en fait.
Exactement.
C'est Nantes qui a joué davantage.
En seconde période.
C'est ça, en fait.
Il y avait plus d'agressivité. Ils étaient plus hauts. Les mecs ont commencé à toucher le ballon. Parce que là, on a commencé à voir du bois. On a commencé à voir Rongier.
Parce qu'ils ont récupéré le ballon sur leur
pressing. Qui semblait hyper emprunté et qui était que en phase défensive. Il a commencé à monter un petit peu plus. Non, il y a eu, ça là, on a commencé à le voir également. Il a commencé à toucher le ballon dans la surface. Bon, il y a eu la fausse passe décisive de Corzava. Non. Le Nantes, pour moi, a pris coup de semonce à la mi-temps et dit qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder combien de temps comme ça vous êtes mené à 0?
C'est pas parce que Gilbert n'est pas là qu'il faut s'acharner sur Kurzawa.
Ouais, c'est vrai.
Attention quand même.
Lui,
il m'a laissé 2-3 consignes.
Ceci dit, il a pas s'acharne tout le temps.
Non, lui, il s'acharne sur Söderlund. Ça n'a rien à voir.
Mais là, c'est fini, donc c'est bon. Ouais.
Guillaume nous rejoint au 32-16, supporter du PSG dans l'after sur RMC et sur BFM Sport. Salut Guillaume.
Bonsoir à tous.
Salut Guillaume.
Donc toi, t'es supporter du PSG. Comment t'analyses le match de ton équipe?
Et pour moi, je réalise en 3 points. Déjà, le coaching des bruits, j'ai rien compris, honnêtement. Après, vous devez peut-être être aussi comme ça. Le fait que j'ai remarqué cette année que quand une équipe fait un gros pressing, je me souviens que ce soit Lyon au Parc ou même à Marseille, on est en difficulté. Et 2-3, c'est même. Et aussi, il y a aussi le cas Kurzawa, mais je pense que. On va pas éviter de s'acharner sur lui, mais je trouve que la MRI doit arrêter les frais avec lui.
Alors, allons-y pour tes 3 points. Réagissons. Le coaching d'Emery. Qu'est-ce qui t'a choqué, toi, Guillaume?
C'est le fait qu'il change Cavani, peut-être parce qu'il en met forme, peut-être qu'il le trouve pas bien, mais pour faire passer Mbappé en pointe, ok. Mais à droite, sur le banc, on a un Draxler, voire un Lucas, qu'on pouvait ressortir du frigo. Et honnêtement, je comprends pas ça. Et pour moi, je veux dire, son coaching, il jouait le 1-0, il jouait même pas. Il cherchait même pas à mettre le deuxième, mais il cherchait le 1-0, il a fermé boutique, pour moi.
Le coaching, vous, il vous a pas choqué, Daniel, Pierre?
Moi, il me choque pas. Le premier remplacement me choque pas du tout. Alors. Pourquoi? Parce que je pense que le Unai Emery est conscient que son équipe est un peu en difficulté, n'est pas dans un grand soir, que ça va pas changer comme ça pendant les 20 dernières minutes, que même si tu fais rentrer effectivement Draxler côté droit, c'est pas lui qui va te prendre l'attaque en main et qui va aller te garder les ballons très haut et emmener tout le monde. Et donc il veut assurer le coup, il fait rentrer Meunier qui est toujours très bon quand il rentre, qui donne toujours tout, donc il consolide sa base défensive. Il met Alves un peu plus haut, voilà. Alves a un pied suffisant. S'il faut jouer un contre et faire une passe rapide vers l'avant, c'est suffisant. Et en même temps, il va rester avec Meunier. Donc, je pense qu'Unai Emery était un peu résolu et n'avait pas envie de plus, effectivement, comme dit Guillaume, qu'un 1-0.
Non, moi là, je rejoins Pierre aussi. Parfois, il faut aussi savoir constater que ton équipe est pas dans un grand soir. Que tu commences justement de plus en plus dans cette seconde période à ne plus maîtriser grand chose. Et premier changement qui est suivi d'un deuxième qui ressemble. Hein. Donc, vraiment, il termine en 4-5-1. Il s'est dit, écoute, on va faire le 1-0. On aura peut-être une ou deux possibilités en contre pour aller mettre le deuxième. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé.
C'est
sur
ça. Je laisse Mbappé avec sa vitesse dans l'axe.
Et malgré tout, le PSG n'a pas terminé dans sa surface.
Non.
Même avec ses rentrées de joueurs plus défensifs, mine de rien, il y a quand même eu encore eu du pressing haut.
Et
on a encore vu Rabiot aux abords de la surface adverse.
Ils Mbappé qui a deux ballons, s'il les négocie mieux,
il... Les balles de contre où il les négocie mal, effectivement. Ouais. Donc, il continue quand même d'avoir la possibilité d'être dangereux, même en ayant ce milieu très renforcé. Donc, oui, à un moment, il y a eu, écoute, si on fait le 1-0 et si on tient, c'est pas mal, parce que là, ça peut mal se terminer ce match. Aujourd'hui, on n'est pas très bien.
Et là où les Parisiens subissaient énormément, et beaucoup plus bas, à partir du changement de Meunier, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est effectivement, il y a une corrélation, tu sens que le PSG respire un peu mieux quand même, voilà, mais deux, trois contre, sort un peu, arrive un peu à garder le ballon un peu plus haut quand même de temps en temps.
C'est plus l'autre changement, en fait, qui peut poser.
Non, mais Daniel l'a dit, c'est le pendant à gauche, quoi, c'est le même à gauche,
hein, finalement. Il a équilibré le truc.
Voilà, Guillaume, tu veux rajouter un mot?
Et pour moi, je souhaiterais aussi mettre une mention à Lo Celso, que je trouve en progrès.
Après, ouais. Il fait plutôt l'unanimité, Lo Celso.
Ouais, il était bon encore, moi, je trouve. Il lui manque à chaque fois, je trouve, 20 minutes dans
les jambes. Ça peut être vraiment une solution dans des matchs de très haut niveau, ou c'est juste pour des matchs de Ligue 1?
Je sais pas encore si ça va être une solution dans les matchs de très très haut niveau, mais en tout cas, si tu lui donnes pas de plus en plus de temps de jeu dans ces matchs-là, de Ligue 1, pour qu'il commence à s'affirmer, qu'il prenne des, voilà, tu le sauras jamais. Donc, bien sûr qu'il faut lui donner du temps de jeu comme là, et il s'en sort pour moi très bien. Donc, pour l'instant, ouais, ça peut être une vraie solution.
Ouais, et le problème, la titularisation.
C'est vrai qu'il joue en ce moment beaucoup. On le revoit ce soir et globalement, on le trouve bon. Mais c'est comme si à chaque fois, finalement, on manquait de référence. Parce que tu vas toujours le voir face à des équipes qui vont pas te mettre une grosse pression, où il aura toujours un petit peu de confort. Et cette position-là devant la défense de 6, la particularité, c'est quand même de savoir... C'est, d'abord d'être capable de résister à la pression adverse, même à la densité physique d'un milieu adverse, et toi-même de jouer assez vite, assez vite, t'as toujours plus de temps que si t'es 10, forcément, puisque t'es un peu plus reculé. Mais je sais pas si c'est contre Nantes, dans un match pareil, ou sur les récents matchs où on l'a vu, qu'on sera réellement une idée de savoir, par exemple, est-ce que tu prends le risque de le mettre 6 dans le match contre le Real.
Après, moi,
c'est toujours la grande difficulté du manque de référence sur une équipe comme le PSG.
Après, moi,
c'est très difficile.
Je verrais plus Rabiot, moi, même s'il aime pas ça, tant pis, mais je verrais plus Rabiot devant la défense, parce qu'il a tous les atouts pour y jouer. Quand il est face au jeu, il est bien meilleur, Adrien Rabiot, je trouve, en 6.
Ça, c'est le
et Verratti et Lo Celso devant un cran plus haut.
Oui, on retourne à la Beaujoire tout de suite. On retrouve Loïc.
Draxler, un jour, on va bien revenir.
Loïc Braine, notre envoyé spécial à Nantes. Re-salut Loïc.
Ouais, salut messieurs. On a eu quelques petites précisions par rapport au Chaperon Gate. On appelait ça comme ça. On a croisé Valentin Rongier, en fait, qui a échangé quelques mots avec monsieur l'arbitre Tony Chaperon, qui lui a annoncé quand même une nouvelle dont je ne connaissais pas l'existence. C'est une nouvelle règle. Depuis le mois de juillet, nous a-t-il dit, lorsqu'il y a contact avec l'arbitre, il y a coup franc pour l'équipe adverse. Ah! Bon, il faudra vérifier cela, voire peut-être demander à notre arbitre radio, Joël Quignoux. Et lorsque Rongier a demandé des explications à Tony Chaperon par rapport à son geste, cette petite balayette qui tente juste avant de se relever, bon là, il était beaucoup plus mal à l'aise, visiblement, Tony Chaperon. Il a parlé d'une banale glissade, a-t-il
mais
dit.
Mais qu'est-ce que ça change, Loïc, pardon, le fait qu'il y ait coup franc pour l'équipe adverse?
Non, c'est vrai que c'était bizarre. En plus que ça solde avec un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Okay. En plus, quoi.
Mais non, mais en plus, moi, j'étais pas au courant de cette règle. Apparemment, est tombée du ciel depuis le mois de juillet.
Le problème, c'est qu'il y a 1000 règles dont personne n'est au courant, mais ça continue à critiquer les arbitres avant même de connaître les règles. C'est une des constances de notre football, ça.
Oui, enfin là, savoir ce qui se passe quand l'arbitre met un coup de pied à un joueur, effectivement, on connaît pas la règle.
Ça, c'est autre chose. On a parlé d'autre chose, Jean-Louis. Donc, ne mélange pas.
On perd pas espoir, notre micro.
On parlait de ce qu'il a fait avant, pas de la glissade où il veut mettre un coup. De savoir pourquoi il a donné le coup franc derrière.
En fait, l'arbitre donne un coup franc au Paris Saint-Germain parce que dès lors qu'il y a un contact d'un joueur avec l'arbitre, on donne la règle. Apparemment,
contact,
c'est donné un coup franc.
C'est pour la chute et le croque-en-jambe.
Non, le premier contact, non, lui, il part du premier contact dans son dos. Dans son dos.
Ah oui, d'accord.
Ah, bah,
le
premier contact. Même.
Mais effectivement, enfin, mais après sur la.
Non, parce qu'évidemment,
sur le cas.
On va crever l'abcès parce que là, je vais entendre sans arrêt. Là, tout le monde va me les briser très sévère avec Chaperon, le scandale, machin. Je veux dire, évidemment, les joueurs, ils peuvent péter les plombs autant qu'ils veulent, bousculer bousculer les arbitres, les insulter. Les présidents peuvent venir dire tous les jours à longueur de match, les arbitres sont des bidons, tout le monde est un. Chaperon qui pète un câble, parce que réellement, là, bon, ce qu'il fait, je l'avais jamais vu, je trouve ça complètement dingue. Et lui, limite, ses places publiques, échafaud, la concorde, la guillotine. Non, mais franchement, j'en ai, mais ras le cul, mais comme c'est pas permis de lire et d'entendre tout sur les arbitres à longueur de temps. Putain, mais laissez-les tranquilles, les arbitres. Merde. Non, mais
pour l'instant, on
c'est
en
tout
encore
le temps
rien
eux
lu.
Qui sont coupables. C'est tout le temps eux. T'as Olas qui vient de faire chier à inventer une règle.
Tu vas pas dire que là, il est pas coupable aussi, Chaperon.
À partir de quand? Il y a un contrat d'artiste. Il y a un contrat joueur qui dribble. C'est quoi? Donc, Fekir, on le protège, mais
Tuzar, on en va le niquer.
Mais c'est quoi l'histoire? Mais arrêtez de faire chier avec les arbitres à longueur de temps. Ce soir, il y a le révélateur. Le révélateur, allez regarder l'image. La ligne, elle est même pas parallèle à la surface de réparation. Arrêtez de faire chier le monde avec ça.
Tu vois, Pierre, moi, je savais qu'il y avait, je savais qu'il y avait un truc sur le cœur, je le savais, mais je l'avais vu depuis le début de l'acteur.
Moi, probablement, le but de Salah, je le valide. Mais la ligne, arrêtez de m'emmerder avec le révélateur. Regardez l'image. La ligne, elle est même pas parallèle. Bon. C'est ouf. Et le révélateur, il est même pas aligné sur les pieds des Parisiens, il est sur le pied du Nantais. C'est délirant.
Alors, Daniel, ceci dit,
et pendant une heure, j'entends le commentateur à la télé dire, il faut la vidéo, il faut ça. Putain, mais arrêtez le délire sur les arbitres. Merde,
Daniel,
à la fin.
Moi, je suis derrière toi dans ce combat, mais attention, ne mélange pas tous les combats. Sinon, le message se perd.
Mais le combat, tu mets arrêter de faire chier l'arbitre.
Oui.
C'est possible d'être éduqué dans la vie. Mais arrêtez d'emmerder l'arbitre.
Moi, je vais pas avoir exactement la même position. Je te rejoins à côté.
Mais la sortie de là, c'est après.
Voilà. Mais ça, c'est grave.
C'est plus possible.
On en reparlera. On était sur le cachapron, messieurs. On était sur le cachapron. La seule différence.
Il a pété un câble. La seule différence. Putain, mais tacle les deux pieds en avant. Et après, tu prends ta retraite, mais au moins, tu t'en fais un une fois, quoi.
Alors, la seule différence, moi, Daniel, je vais te rejoindre sur un truc, c'est que, effectivement, moi, j'ai toujours dit qu'un joueur, à un moment donné, et je me suis même battu avec mon propre père pour ça. Parce que mon propre père, c'est le règlement. Le règlement, c'est le règlement, et basta. Et j'ai toujours essayé de lui expliquer que des fois, dans l'action, tu pétais un plomb. Parce qu'il y a l'adrénaline, parce qu'il y a l'enjeu, parce qu'il y a tout autour, et qu'à un moment donné, un joueur, parfois, il peut péter un plomb et coller un tacle, ou mettre une gifle, et puis 30 secondes, même pas, 3 secondes après, tu regrettes. C'est valable pour les arbitres, je suis d'accord aussi.
Messieurs.
Un arbitre, je vais juste.
Non, parce qu'on avait des Marquita, en direct avec Loïc Braille.
Bon, alors, allons-y.
À la Beaujoire.
Allons-y.
De l'Espagne, en disant c'est un arbitre gag. Voilà. Ah. Qu'est-ce que je vous dise? Si je dis trop de choses, je vais me faire convoquer dans une commission d'éthique. Parce qu'on a le droit de rien dire. Donc je ne vous dis pas grand-chose. Je vais essayer de voir de quelle façon pour récupérer quand même, parce qu'il y a un carton rouge. C'est quand même scandaleux de voir ça. Et vous avez bien vu, il y a le but, on nous refuse un but. On donne un carton rouge à un joueur qui n'est pour rien. On ne sait pas où on est là. Il faut faire une école de l'arbitrage privé.
Est-ce que vous avez vu, M. Chaperon?
Voilà. Ah, il va énerver Daniel plus, encore.
Non, pas Chaperon, il doit se reposer, il doit se faire masser. Et puis après, on peut le voir. C'est comme ça que ça marche maintenant. C'est la direction qui a donné l'ordre. On ne peut pas le voir avant une demi-heure. Il doit se reposer, réfléchir. Même M. Chaperon, il est en forme puisqu'il a rigolé en sortant.
C'est bientôt fini, une demi-heure. Vous allez le voir, donc.
Ah, mais peut-être j'attends le feu vert, parce que sinon, je vais me faire tuer. Hein. Attention, hein, c'est pas, tout ça c'est pas sérieux, c'est du amateurisme. Il faut arrêter, il y a un moment il faut arrêter. Ou on fait une révolution, on fait pas de révolution dans tout ça. C'est pas sérieux.
Qu'est-ce qui vous choque le plus dans l'attitude de M. Chaperon? C'est sa tentative de coup de pied sur Diego Carlos?
Non, mais je pense que sincèrement, en plus il a pas fait exprès. Je pense qu'il a pas fait exprès, je pense. Je veux pas croire qu'il a fait exprès. Mais sincèrement, même s'il a pas fait exprès, au moins il dit, excuse-moi, il lui ne fait un carton rouge quand même, c'est pas sérieux. Allez, on paraît, aujourd'hui, l'arbitrage, on est dit, enfin je vais pas dire les mots parce que je vais pas utiliser le vocabulaire qu'il faut, je vais être trop méchant ou peut-être pas exact, mais sincèrement, toute l'Europe rigole là, hein. C'est un gag. Le joueur reçoit et c'est lui qui reçoit le carton. Mais attendez, c'est pas sérieux, il faut quand même trouver une solution dans tout ça. Attendez, il y a un problème quelque part. Sincèrement, ce n'est pas sérieux.
Est-ce que vous avez un...
Ça me fait rigoler à la fin.
Vous avez un contact avec M. Grégion, le directeur des arbitres?
Non, laissez tomber.
Vous avez déjà vu ça?
Comment ? Ah non, je n'ai jamais vu ça, non. En principe, l'arbitre s'excuse quand il tombe, parce qu'il est tombé. Bon,
c'est assez sûr que ce qu'on voit, c'est vous qui faites chier les arbitres en longueur de temps, ça, oui. Ça, ça, on a le droit de le voir, ça.
Bon, on en reste là. Alors, on en reste là. Moi, si je peux finir
juste, c'est que effectivement, je rejoins Daniel sur le fait qu'un arbitre, à un moment donné, dans l'action, peut péter un plomb, parce que là, il le dit pas, Kita, mais on a tous vu que Chaperon le faisait exprès, le croche-patte. C'est pas grave. Il a le droit de péter un plomb. Par contre, j'espère. Et comme on peut l'attendre d'un joueur quand il pète un plomb, j'espère que Monsieur Chaperon va pas se cacher derrière un j'ai pas fait exprès ou un truc comme ça. J'espère juste qu'il va aller voir les Nantais, qu'il va aller voir la commission d'arbitrage ou quelque chose comme ça et dire j'ai eu un mauvais geste, je l'assume. Vous faites ce que vous voulez avec moi, je l'assume. Le joueur ne méritait pas un carton rouge et on en reste là. Et moi je trouverais que c'est beau d'assumer ça, comme un joueur doit assumer parfois de péter un plomb.
Moi je trouve que Daniel est détendu. Pas, ouais. Depuis que c'est sorti, voilà, ça va mieux. Comme quoi, il faut que ça sorte, Daniel. Mais dans ces cas-là, tu nous le dis dès le début. Va falloir que ça sorte et après ça va mieux.
Non mais franchement, expliquez-moi pourquoi. Pourquoi non, mais... autant de gens, là j'en lis sur Twitter, viennent me faire chier en disant ouais, qu'est-ce que tu pètes un plomb à défendre les arbitres, t'es un enculé, machin, les arbitres. Mais pourquoi cette culture-là? Pourquoi c'est ancré dans la tête des gens, tu l'as dit,
c'est culturel en France, je pense aussi.
Mais partout.
Moins dans certains pays. Non, tu vas en Angleterre un petit peu moins.
Oh, en Angleterre, beaucoup moins. Pour dire, ouais, on est la risée de l'Europe, on est machin. Mais putain, mais est-ce que toi, t'es pas la risée de l'Europe quand ton club ne fait rien depuis des années?
Je le trouve plutôt soft.
C'est pas les clubs français qui sont la risée de l'Europe parce qu'ils ont jamais gagné de Coupe d'Europe sauf deux fois.
C'est autre chose.
Mais c'est dingue. Je te jure, c'est dingue. Je comprends pas, moi.
Finalement, on est la risée de l'Europe pour les arbitres et le jeu.
Il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, mais c'est Chaperon, c'est un peu le symbole des arbitres qui paraît trop autoritaire, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que tout le monde
est
dessus.
C'est le prototype du président qui fait chier les arbitres tous les week-ends. Et Kita, c'est le prototype du président qui depuis 10 ans ne marche encore rien dans son club.
Mais Daniel, moi je te disais.
Chaperon, on se comprend bien. Est-ce que je ne défends pas Chaperon? Je m'en fous du cas Chaperon. J'ai vu l'image, j'ai rigolé.
Mais c'est avant tout marrant.
Mais je ne pensais pas, c'est dans la seconde, j'ai pas pensé qu'il allait avoir un déferlement pour lui taper dessus.
Si, c'était sûr.
Mais tu vois, dans tout ce que tu as décrit, Daniel, dans tous ces exemples.
C'est de la lâcheté humaine. Tous les mecs qui sont en train de taper sur Chaperon, ils sont indignes.
Il faut qu'on s'arrête là. En tout cas, moi, je pense que dans tous les exemples que tu as cités, le plus grave, c'est peut-être Jean-Michel Aulas. Dans ta réflexion globale.
Parce que c'est répétitif et que c'est beaucoup plus calculé.
Ce qu'a dit Kita, c'est pas grave aussi.
Pour l'instant, il est un peu dans le feu de l'action. Moi, j'attends juste la réaction de Monsieur Chaperon. C'est ça qui va dicter mon jugement.
Tu crois pas à la création d'une école privée des arbitres, de formation des arbitres? Des propositions, mais Marquita, pourquoi pas. Allez, on continue de débriefer dans le PSG dans l'after dans un instant avec les réactions à la Beaujoire, comme celle il y a quelques secondes du président nantais Valdemar Marquita. On viendra aussi sur les autres matchs dans quelques secondes dans l'after. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show. L'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec indirectement Monsieur Chaperon et l'arbitrage. Désolé, mais voilà. Le geste de Monsieur Chaperon fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Ça a fait réagir Valdemar Quittal, le président nantais. Il y a quelques secondes, c'était sur RMC et sur BFM Sport. Paris s'est imposé 1-0 à Nantes il y a quelques minutes grâce à Di Maria. On va revenir sur le match. Laissez l'arbitrage de côté quelques secondes. On y reviendra peut-être tout à l'heure en parlant de Lyon. Mais Damien nous rejoint au 32-16, un supporter nantais. Salut Damien.
Bonsoir à tout le monde.
Est-ce que tu ressors de ce match plutôt fier de ton équipe?
Très très fier. Ouais. Très très fier. Je suis contre l'arbitrage vidéo, moi. Mais c'est vrai que le but de Salah, il est valable, quoi. C'est un feu de jeu, comme tout. Je suis très très fier d'être supporter nantais. Pourtant, j'habite dans le Lot-et-Garonne. Je suis supporter nantais depuis l'âge de 10 ans. Je vais avoir 40 ans bientôt. J'en suis fier. Par contre, l'arbitrage de vidéo, je serais pour que l'arbitre, il demande l'arbitrage de vidéo pour lui.
D'accord. Bon,
on lance pas Daniel.
J'ai peur qu'on perde Daniel.
On a réussi à le calmer.
Mais globalement, on parlait parfois du jeu nantais, de l'ennui qui peut susciter.
Magnifique.
Ouais.
Magnifique. Là, on peut dire à Domenech qu'ils sont descendus du traîner.
Ah oui, pour l'histoire du bus.
Là, du bus, ouais, du bus, c'est ça.
Bon, alors là où je le rejoins moi aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a cette organisation qu'on reconnaît à Nantes depuis que Ranieri est arrivé, et qu'en seconde période il y a autre chose que de l'organisation tactique, il y a vraiment une envie du jeu, ils ont mis le feu pendant 25 bonnes minutes voire une demi-heure au Paris Saint-Germain.
Et moi je trouve aussi qu'il y a un QI foot assez développé, tu sais, on a parlé de ces actions en contre où il y avait de bons retours défensifs des Nantais. T'as des joueurs qui vont beaucoup plus vite que toi en face, faut être quand même assez malin pour intervenir au bon moment, et ça on le voit pas dans toutes les équipes de Ligue 1.
Non, c'est ce qu'on appelle l'organisation tactique défensive, et c'est forcément la patte Ranieri, mais il faut effectivement qu'il y ait des joueurs intelligents pour le faire aussi.
C'est ça. Merci Damien d'être venu au 32-16, bonne fin de saison.
Après j'aimerais juste dire Palois, homme du match.
Ah.
Palois, il a été énorme en défense, il a été vraiment, vraiment, vraiment énorme.
Ok, bah dans l'évaluation, on note Palois, homme du match pour toi côté Nantais. À bientôt. Ah ouais. Damien, merci.
Merci, au revoir.
On a Farid également avec nous au 32-16, autre supporter, mais du PSG cette fois. Salut Farid.
Ouais, bonsoir messieurs, bonsoir.
Bonsoir Farid.
En tout cas, Daniel, tu m'as tué parce que moi aussi j'étais mort de rire sur le tacle de l'arbitre, j'ai trouvé ça excellent, j'étais pété de rire. Et tu m'as trop fait rire, tu m'as tué, il devrait le tacler à deux pieds devant. Excellent. Bon, cela dit, tout ça, de toute manière, moi Pierre, j'ai dû pas voir le même match que toi. Parce que tu me dis que t'as vu Nantes nous mettre le feu.
Au retour de la pause.
Tu sors pas
pendant 20 minutes, tu sors pas de chez toi.
Mais c'est ça le feu. Mais dis-moi quel arrêt il a dû faire.
Contre le Paris Saint-Germain, il y a pas beaucoup d'équipes qui ont mis pendant 20 minutes le Paris Saint-Germain dans leurs 30 derniers mètres.
Mais attends, déjà pour relativiser, on a fait un match moyen. N'oublie pas qu'on fait quoi? C'est le troisième match qu'on fait de suite à l'extérieur, comme ça, encore moins de 8-10 jours. On a des joueurs.
Ouais, peut-être, pas de problème là-dessus.
Ouais, d'accord. Bon, de toute manière, c'est trois matchs extérieurs, tu gagnes. Ça suffit. Di Maria, il te met la balle dedans. Le match, tu t'en parles plus, il est plié.
Mais
tout le monde peut rentrer. Ok, très bien. Mais sur le fond, en occasion nette, il y a quoi? Vous me faites rire quand je t'entends dire ils ont mis le feu, c'est le feu de quoi? Le feu de quoi?
Mais le feu où le Paris Saint-Germain est dans sa surface, le feu où Kimpembe tacle une fois devant Areola, une autre fois c'est un but effectivement qui est refusé, qui aurait pas dû l'être, c'est comme ça, c'est un fait de jeu, mais c'est quand même une action. T'as une autre fois sur l'autre côté où c'est je crois Marquinhos qui tacle. Voilà, pour des Nantais, pour des Canaris comme tu dis, pendant 30 minutes être dans les 30 derniers mètres parisiens, pour moi c'est à saluer.
Alors sur un match première mi-temps, déjà je crois que sur les stats on était à 70% de possession de balle, ok, mais alors, par contre en ayant 30% de balle, tu mets le feu. Bon, ok, pourquoi pas Pierre, pourquoi pas.
Et ouais, puis, après c'est peut-être l'expression mettre le feu qui te dérange, c'est peut-être un peu excessif, allez, je te le reconnais, ouais, mais en tout cas il y a eu des Nantais qui ont dominé pendant 25 bonnes minutes, ouais, au retour de la pause.
Ouais, c'était une domination stérile pour moi, mais bon, cela dit, écoute, si c'est ça dominer, bon, je pense qu'on a joué suffisamment, on doit se dire qu'il y en a un petit peu sous le pied. C'est vrai qu'on a joué, on a fait un match moyen, de toute manière. J'entendais l'auditeur tout à l'heure qui comprenait pas les changements. Je trouve que les changements ont été bons. Pour moi, ça a été des bons changements. Il y a des fois, c'est compliqué. Des fois, faut savoir aussi gagner 1-0. Tu vois, quand c'est le Real de Madrid qui fait 0-0, on crie, ouais, bon, ils ont accroché. Quand nous, on gagne 1-0, c'est jamais bien. Putain, mais ça fera bien quand pour PSG. T'enchaînes, ça fait quoi? Ça fait
Farid, tu m'as pas entendu dire que de gagner 1-0 là à Nantes pour le Paris Saint-Germain, c'était pas bien. J'ai pas dit ça. Hein.
D'accord, ok. Non, mais moi, ça me va très bien. Tu sais, tu gagnes 1-0 là, tu refais un petit
match. Ah, c'est clair, je suis d'accord.
Tu regagnes encore, t'as juste 11 points d'avance, c'était pas mal. Hein.
Ah, carrément, ça, je suis d'accord avec toi.
Pour revenir à Le Celso, Daniel, tu vois, moi, je pense que réellement, on nous manque quelqu'un, il nous manque de la puissance au milieu. Parce que quand tu regardes, on a quand même beaucoup de joueurs de profil identique, à savoir, t'as quand même des joueurs qui sont, je dirais, relativement nonchalant. Tu prends un Lo Celso, il a du mal à accélérer quelque part. Il est pas mal dans l'utilisation du ballon. Mais je trouve qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui se ressemblent. Je te prends même un Di Maria ce soir. Le gars tout à l'heure disait que Draxler, il est pas rentré. Mais c'est dans le même profil. On a beaucoup de joueurs de salon. Et il nous manque quand même dans des matchs où ça peut un peu donner. Quand on va passer les matchs de Champions League, quelqu'un où il y a un peu plus de puissance ou un peu plus de duel là-dessus. Oui. Maintenant, moi, le point, Daniel, il est avec Kurzawa. Moi, j'ai un problème, c'est avec le gardien. On a effectivement deux gardiens, on va dire, moyens, mais on a un moyen moins. Areola, je ne vais pas dire qu'il n'a pas été bon ce soir. Il a l'image de tout le temps. Tu vois, sur le but que tu dis tout à l'heure qui est valide, putain, c'est 1m97, il ne prend jamais un ballon aérien. À chaque fois, c'est cadré, il y a but. À chaque fois, c'est cadré, il y a but. Je reprends les deux matchs d'avant qui a fait Trapp. Raph a été meilleur, même en menant 1-0, il nous a sorti un ou deux ballons où il fallait, mais je trouve qu'on est quand même beaucoup plus indulgent avec Areola qu'avec Trapp.
Et dis-moi, pour moi, qu'est-ce que t'as pensé du match d'Mbappé aussi? Parce qu'on le suivait avec attention, parce que Neymar n'était pas là. Certains sont plaints qu'il en fasse un peu trop.
Mbappé, oui, il en a fait un peu trop ce soir. Je pense qu'il est un peu essoufflé aussi, parce qu'il n'arrête pas d'enchaîner. Il fait tous les matchs, il joue 90 minutes, il sort quasiment pas. Donc ouais, effectivement. Par contre, j'ai trouvé Kimpembe, quand il est sérieux comme ça, il est énorme, ce gamin. Et je trouve qu'il pourrait même titiller. Il serait lui aussi titulaire au Barça, pour moi. Ce gamin, je le trouve plein de qualités. Et tu me reparles de tout à l'heure, je crois que vous avez élevé un sujet sur lequel où il y a encore Olas qui pleurait avec Fekir. Mais si tu regardes ce que prend Neymar comme pain tous les week-ends, bon, tu sais, il y a de quoi te pleurer aussi. Mais tu vois, un Neymar sur un match comme ça, quand c'est bien fermé, ça manque, tu vois ce que je veux dire?
Ça manque toujours, un Neymar.
Mais tu vois, quand il garde le ballon, il ajoute trop pour sa bouille et tout. Mais un truc comme ça, lui, il peut te le mettre le deuxième facilement. Il décide d'aller le mettre, il va le mettre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ce qui fait que t'as le plus. Mais si tu regardes depuis le début de saison, plus personne parle du montant de Mbappé ou Neymar. On n'en parle plus du montant des transferts. C'est pas mal, ça. Voilà.
Merci, Farid.
Il nous manque quelqu'un pour avoiner un petit peu au milieu, tu vois. Ouais. Un peu plus. Voilà.
C'est ce que tu disais sur les profils complémentaires, effectivement. Merci Farid, à bientôt sur RMC et sur BFM Sport. Salut Farid. Vous voulez redire un mot sur le match? Il y a quelque chose à rajouter pour vous?
Un joueur à mettre en avant?
Non, comme vous voulez. Sinon, on passe à Lyon.
Non.
Daniel, il est dépité. Il doit prendre des messages là sur Twitter.
Je
le vois dans ses yeux.
Le but de Salah n'est pas valable quand on connaît le règlement, mais ça va continuer à dire qu'il était valable. Je suis effaré. Oui. Ce soir, franchement,
le but de Salah, tu veux dire quoi? Parce qu'il est hors jeu.
Ouais.
Mais il a pas
tout
été
monde dira qu'il était pas en jeu.
Ah, oui.
Et que le révélateur, en plus, voilà.
Non, mais même si tu te bases pas sur le révélateur, il est hors jeu pour toi. Si tu te bases pas sur le révélateur. C'est dur à voir sans révélateur.
Juger que les deux qui sont devant ne font pas action de jeu, c'est pas quelque chose qui est une certitude. Quand une défense en ligne sur une telle action avec le gardien qui forcément doit suivre les joueurs qui sont en mouvement devant lui.
Mais à ce moment,
encore une fois, les gens avec certitude diront.
Ah, c'est toujours pareil, c'est tellement plus facile après.
Sans parler du révélateur qui n'est encore une fois pas bien placé. C'est hallucinant.
Ça c'est extraordinaire.
J'ai revu pendant que vous parliez 10 fois l'action de Chaperon. Évidemment que je l'excuse pas, que c'est ridicule. Mais encore une fois, quand il se fait bousculer à cette vitesse-là.
Enfin, c'est lui qui coupe la course du joueur, quand même. Enfin, tu vois, il se fait bousculer. C'est lui qui passe devant le joueur. Le joueur, il est pour rien, même à la base, quoi, je veux dire.
Et si jamais lui, il te dit, j'ai senti que l'autre m'a poussé exprès.
Pour moi, c'est un menteur, parce que là.
Ce sera un menteur.
Je suis désolé, mais c'est lui qui change, tu vois, c'est lui qui change la course, quand même, quoi.
Le mec, il est bousculé. T'as vu comme il s'écroule par terre? Juste avant, il l'avait bien secoué aussi. Il avait posé les mains dessus alors que c'est totalement interdit de poser les mains dessus.
Après, qu'il le fait.
Quand ça commence à.
Ça à la limite, il pourrait, Chaperon pourrait peut-être justifier son carton pour ça, peut-être. Parce qu'après, le joueur le touche. Mais c'est après le carton.
Il se relève, c'est compliqué. C'est un geste fou. Et ça, tout le monde va s'arrêter là-dessus pour le déglinguer. Alors que c'est pas un arbitre.
Oui, il y en a qui vont le faire. T'as raison, il y en a qui vont le faire.
C'est pas un arbitre qui me plaît, rien.
Tu n'empêcheras pas les gens d'être cons.
On a compris ton point de vue, de toute façon. On a compris. Alors, Lyon, puisque Daniel, tu es touché.
Mais je pense que je serais pas seul à penser ça. On sera pas la majorité, parce que la majorité.
Non, moi, je te répète ma position là-dessus. J'attends vraiment la réaction de Chaperon.
Passons à Lyon. Et comme Daniel, je sens que cette mine, ces histoires d'arbitrage. Eh bien, nous n'allons pas passer les extraits d'interview qu'on avait prévu. Jean-Michel Aulas qui se plaint du traitement de Nabil Fekir, etc. Tu vois, comme j'essaie de te ménager.
Il se plaint du joueur qui a obtenu ou qui a subi le plus de fautes. Attends, c'était quoi le tweet pendant un match de Ligue 1 depuis les 10 dernières saisons, je crois.
Ouais, c'est ça. Il y a eu des fautes sifflées
sur Nabil Fekir. Il y a eu des fautes et elles ont été sifflées. Oui, tout va bien.
Non, mais lui, en fait, ce qu'il veut, c'est que le joueur soit interdit de faire faute, sinon carton rouge direct.
Qu'on le laisse passer, ouais.
Parce qu'en fait,
il veut que ce soit rouge, si c'est fait
pire, j'ai vu le match, il n'y a pas eu de faute méchante en plus, quoi. C'est des fautes, c'est dans le jeu.
Ces gens qui sans arrêt sont en train de nous faire chier sur l'arbitrage. Juste prends les propos. Essaye de traduire, de mettre sur un papier la concrétisation de l'idée.
Tu demandes clairement un arbitrage à deux vitesses.
C'est tellement stupide.
Je suis d'accord.
Mais personne ne va leur dire. Et tu as toute une tripotée de supporters aveugles et hébétés qui vont dire notre président a raison.
Mais ça tu les changeras pas. Par contre là où tu as raison et tu dis que c'est plus grave.
Le monde dans lequel on vit.
Là où c'est plus grave.
Parce que le président est supporter en fait. Non, ça, mais truc. Moi, monsieur, sur ce coup-là, il raisonne quand même.
On va pas se tromper, Daniel. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je pense que monsieur Ola, c'est très intelligent et que quand il fait ce genre de tweet, il sait très bien que ce qu'il dit, c'est uniquement pour mettre une sorte de pression, quelque chose comme ça.
Mais son club.
Il sait très bien qu'il a tort sur le fond. Voilà, il le sait. Je veux pas croire autrement.
Expliquer ça parce que chaque fois que vous le dites, je pense avoir compris que pour être président de club, il faut faire ce genre de déclaration stupide.
J'espère pas.
Me le répétez pas à chaque fois.
Non, parce qu'il y en a qui le font pas.
Non, parce qu'à chaque fois, vous me le dites. Non, mais c'est pour mettre la pression. Non, mais c'est très intelligent. Parce que ça détourne.
Ah non, j'ai pas dit que c'était intelligent, Daniel.
En fait, ça détourne du résultat. Et comme ça, Daniel, on va penser simplement.
J'ai pas dit que c'était intelligent. J'ai dit que monsieur là, c'est suffisamment intelligent pour savoir que ce tweet-là.
Ça les détourne de qui, en fait? Tu veux m'expliquer en fait c'est quoi le processus mental?
Mais non, mais c'est juste mettre la pression sur le.
Ça marche peut-être même pas.
C'est mettre la pression sur le futur arbitre qui va arbitrer Fekir pour qu'il sorte.
Mais ça marche peut-être même pas.
Ça va marcher.
Non,
j'en sais rien moi, mais c'est dans le
raisonnement de Jean-Michel Aulas, il est là. Il y a quelqu'un qui tient des stats derrière ce genre de truc ou pas? Non, mais montrez-moi si ça tient vraiment ce genre de
communication.
Non, bien sûr que non. Non, mais il faut m'expliquer parce que c'est peut-être, je sais pas moi.
Mais je t'ai pas dit que c'était intelligent de la part de Aulas de faire ce genre de tweet, moi. Je t'ai pas dit
mais
ça.
Non, mais c'est vous qui êtes en train de m'expliquer que cette communication, elle est faite avec un but précis.
Mais parce que ça démarche,
si ça marche.
C'est quoi son autre but si c'est pas ça?
Je sais pas moi. C'est
pourquoi il fait ça alors?
Dites-moi si ça marche alors.
Mais
non, moi je
trompe d'adversaire, Daniel. C'est pas nous les adversaires.
On t'a pas dit que ça marchait.
Jean-Michel Aulas, il le fait pour ça sans arrêt ce genre de conneries.
Mais non, mais
non. On te dit qu'il le fait pour ça. On te dit pas que ça marche. On te dit pas que c'est bien de le faire.
Bon bref. Ouais. Allez, dans un instant, on va essayer de parler quand même du match de Lyon-Angers et le foot anglais avec Philippe Auclair. On s'est régalé cet après-midi. Un mot également sur Toulouse qui a perdu à Saint-Etienne 2-0. À tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot jusqu'à minuit, encore un quart d'heure ensemble pour revenir sur les matchs de Ligue 1 du jour. Je vous rappelle que le PSG a gagné 1-0 à Nantes, que Lyon et Angers ont fait match nul 1 partout et que Saint-Etienne a battu Toulouse 2-0. On va revenir dans 5 minutes sur l'Angleterre avec l'énorme victoire 4-3 de Liverpool face à Manchester City. Première défaite de la saison de Manchester City. Juste avant, on a parlé des déclats de Jean-Michel Aulas, mais quand même sur le jeu, sur Lyon-Angers, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre, messieurs? Bon, Lyon qui perd deux points.
Ouais, Lyon qui perd deux points, mais c'est pas immérité
Lyon
non
est
plus.
Pas extraordinaire dans le jeu.
Bah voilà, c'est pour ça que je dis c'est pas immérité non plus de.
Il leur manque des joueurs, ils ont pas de neuf.
Ouais.
Ouais.
C'est Maolida qui a joué.
La fameuse solution qui doit toujours venir des jeunes qui sont toujours fantastiques. Il y a quand même des limites à un moment aussi à ce raisonnement.
T'as des bons jeunes, mais il leur faut du temps. Ils peuvent pas, faire la décision le jour où tu leur demandes comme ça.
C'est toujours.
C'est compliqué.
T'es un club à 250 millions de budget. Bon, il te manque ton numéro 9. T'en as pas d'autre. Qui est un bon numéro 9 en plus, qui est une vraie trouvaille, on s'attendait pas à ce qu'il soit si bon. Il est pas là et tu rames parce qu'au final tu te retrouves pas avec offensivement tous tes atouts.
C'est ça.
Tu démarres
contre une équipe bien organisée après
le but.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
S'est replié,
c'est ce que j'allais dire.
T'es venu buter sur elle, t'es déjà bien parce que t'as un joueur hors norme comme Fekir qui te remet sur les rails. Mais ça suffit pas parce qu'après devant t'as pas assez de solutions, t'as pas assez d'inventivité.
Et encore t'as un ou deux coups du SCO qui sont mal joués, un ou deux contres qui sont mal joués, ça aurait pu être plus
après,
problématique.
Après ça aurait tourné à la cata quoi, de te faire en plus planter sans que tu prennes même le match nul. Mais ouais, c'est un sale match de Lyon. Ça, Paris a fait également un mauvais match ce soir. Bon, eux l'ont gagné parce qu'ils ont plus de talent. Là, Lyon en plus il en manquait donc. Voilà, tu te retrouves à faire le pire résultat de cette journée de Ligue 1. Ouais.
Oui, c'est clair.
Oui, bien sûr.
Donc Lyon qui ne fait que match nul un partout contre Angers. Que dire de Saint-Etienne-Toulouse? Donc Saint-Etienne qui s'impose, qui se relance. Toulouse qui devient relégable, 19e, Toulouse, grâce au nul. Angers devient barragiste. Toulouse, attention quand même, Va falloir commencer là vraiment à s'inquiéter. Est-ce qu'il y a...
Dupré est peut-être un bon entraîneur pour faire remonter une équipe de Ligue 2 à Ligue 1, on ne sait pas, faut voir.
Ou pour la main du premier.
Dupré n'était pas là, donc.
Oui.
Ah, il était même pas là,
oui. Oui, visiblement, en plus, il est pas en forme.
Oui, non, il est pas en forme.
Mais lui, c'était un bon rétablissement parce que je ne lui souhaite absolument aucun mal.
Non, bien sûr.
Voilà.
Pour aller plus loin, Saint-Etienne, est-ce que on sent une vraie accalmie avec Jean-Louis Gasset, avec le retour de Berić?
Ils n'ont pas dominé le match. Toulouse a eu des occasions. Ils ont eu le péno. Après, le deuxième but, c'est on va dire que la défense de Toulouse est pas géniale sur l'affaire. Non, maintenant ce qui est sûr c'est quand même qu'avec enfin un avant-centre,
Berić va faire du bien.
Le retour d'Amouma,
Là, c'est Bamba qui jouait, mais bon, tu peux également avoir Cabella. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vaut réellement ce Diouf qui a marqué. Parce que moi,
on en a entendu bien hein,
alors,
depuis cet
été.
Moi,
je n'en ai entendu que du bien ce joueur. Donc, j'aimerais vraiment.
Et Cabella a joué aujourd'hui.
Oui, mais pas. Je parlais du.
Ah oui, pas sur un côté.
Bon.
Oui.
Diouf, j'en entends que du bien. Donc, j'aimerais vraiment avoir une idée plus sûre de lui. Et si vraiment ça s'avère être un bon joueur, donc tu peux avoir Cabella, lui, les trois qu'on jouait là, bon, plus Perrin qui est revenu.
Ouais, qui va faire ça bien, ça aussi. Ouais, voilà. Ça change.
Après,
tout,
moi, on m'a toujours dit pendant des années, ouais, Ruffier, c'est notre meilleur joueur, c'est notre meilleur joueur. Il s'agit pas de dire que c'est pas un bon gardien. Évidemment que non.
Mais c'est problématique quand ton meilleur joueur est gardien.
Le problème, c'est que ça doit pas être Ruffier sans arrêt ton meilleur joueur.
Ouais,
et c'est bien qu'ils aient trouvé des joueurs devant.
C'est limitatif.
On a vu aujourd'hui aussi que le remplaçant de Ruffier, en l'occurrence Jesse Moulin, bah, il a fait un très bon match. Lui aussi, il est capable de sortir des balles de but parce qu'il en a sorti des occasions.
Non, par contre, moi, je m'attendais pas aujourd'hui.
Ce qui est plus important, c'est qu'offensivement, ils se mettent à jouer.
Alors, je m'attendais pas aujourd'hui à avoir un Saint-Etienne qui règle tous les problèmes, qui soit bon dans le jeu, etc. Mais contre un adversaire direct comme les Toulouse aujourd'hui, les trois points là, et voilà, c'était vraiment l'essentiel. Ils les ont pris, ils ont marqué deux buts. Ça leur est pas arrivé plus souvent que ça, donc il y a quand même pas mal de points positifs, ne serait-ce que dans les têtes. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses à régler et qu'on espère que Berich, que le retour de Perrin, etc. vont aider à ça. Ouais.
À 17h, il y avait donc Lyon-Angers, mais si vous aviez deux écrans devant vous, c'était compliqué quand même de faire les deux, parce que ça allait très très vite en Angleterre entre Liverpool et Manchester City. On y revient tout de suite avec Philippe Auclair. Salut Philippe.
Salut Jean-Louis, salut les amis.
Salut Philippe.
4-3 pour Liverpool, qui a montré de nouveau son allant offensif et qui inflige à City sa première défaite de la saison, donc.
Ouais, écoute, dans un match éblouissant, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Enfin, il y a beaucoup d'autres mots pour le qualifier. C'est un match qui nous a tenu en haleine de la première à la 94e minute. Non pas par ces retournements de situation, même s'il a failli en avoir un à la toute fin de la rencontre, entre deux équipes qui pratiquent le meilleur football en Angleterre en ce moment et qui, je dirais presque en Europe, avec l'exception du Barça, qui ont été fidèles à leur philosophie, de bout en bout. Un match dans lequel moi je vois pas véritablement de perdant, je vois surtout un Liverpool qui nous a conquis. Et à qui Philippe Coutinho visiblement ne manque pas trop, ce dont on avait déjà parlé, ce dont on reparlera demain, mais qui était totalement convaincant et qui a ses capacités d'avoir des moments forts, mais absolument hallucinants, enfin au niveau de l'intensité, qui a su avoir le plan de jeu qu'il fallait contre Manchester City, avoir le courage d'avoir ce plan de jeu et de l'appliquer, avec des joueurs qui pour moi ont été au-dessus de ce qu'ils ont montré depuis très longtemps. Je pense à Alex Oxlade-Chamberlain par exemple. Je pense que les supporters d'Arsenal qui l'ont vu jouer cet après-midi ont dû avoir quelques regrets.
Il n'aurait pas fait de mal du côté de Bournemouth.
Ah oui, après ce qui s'était passé à Bournemouth, je pense à Emre Can qui a fait un de ses meilleurs matchs pour Liverpool également, et une équipe de Manchester City qui a connu de gros problèmes à certains moments, mais qui s'est rebiffé et qui était tout près de revenir à la dernière seconde sur ce coup franc, la tête d'Aguero et tout ça. Bon, non mais absolument magnifique et. Un match qui fait de mal à personne. Je pense pas que ça fasse beaucoup de mal à Manchester City, dans la mesure où le championnat d'Angleterre, leur avance est telle que même si Manchester United l'emporte demain, comme c'est prévisible, face à Stoke, ça sera toujours 12 points. À ce stade de la compétition, c'est beaucoup trop, vu les qualités de cette équipe. Liverpool se replace à égalité de points avec Manchester United et devant Chelsea avec 47 points.
C'est un match qui fait du bien, ouais, Philippe, pour Liverpool.
Ah mais absolument, et puis c'est un match qui montre qu'il se passe quelque chose.
Il fait énormément bien Liverpool, et pas tant de mal que ça.
C'est
à City.
Ça, oui. C'est ça, ouais, qui est bien.
Il y a toujours des doutes. Hein. C'est pas une équipe parfaite. Tu vois encore, par exemple, sur l'égalisation de Leroy Sané, qui est un exploit individuel, mais bon, Karius, c'est pas vraiment à la hauteur. Bon, il manque toujours un gardien, il manque peut-être un deuxième défenseur central. Allez savoir. Mais c'est une équipe qui est en progression et qui a complètement visiblement
qui a trouvé un style.
Adopté. Excuse-moi.
Qui a trouvé un vrai style.
Absolument.
Et un style dans lequel, effectivement, on en avait parlé cette semaine. Même si Coutinho est un joueur extraordinaire, mais finalement, se récupérer l'oseille de ce joueur pour enfin prendre un gros défenseur ou peut-être même un autre milieu de terrain, je pense que Liverpool affirmera encore plus le style Klopp.
Absolument. Ouais. Et il y a des moments, tu sais, on voyait quand on... Parce qu'ils étaient en 4-3-3 aujourd'hui, et c'était vraiment le 4-3-3 du Borussia qu'on retrouvait. Dans l'intensité, ouais, ouais, dans la façon de presser haut, c'était intelligent, c'était dynamique. Ils ont pas craqué physiquement. Ce à quoi je me disais, c'est pas possible qu'ils tiennent ce rythme-là pendant 90 minutes. Mais... Bah, ils l'ont fait, sauf dans les 10 dernières minutes, peut-être. Mais encore une fois, on en reparlera plus en longueur demain. Mais attention à Liverpool, non seulement champion d'Angleterre, mais en Ligue des Champions.
Peut-être même surtout en Ligue, plus en Ligue des Champions qu'en championnat d'Angleterre. T'as raison. Moi, ce qui m'a fasciné à Liverpool dans cette rencontre, c'est à la fois t'es dans une disposition mentale de folie, t'es au niveau de l'intensité, t'es au top et tout, et tu gardes quand même, malgré ça, un sang-froid devant le but chez certains joueurs qui est quand même incroyable dans ce genre de match. Je veux dire, le ballon piqué de Firmino, enfin, faut le faire quoi. Quand t'es là à bagarrer, à batailler tout le temps. Et tout, avoir cette présence d'esprit de faire ce geste-là, c'est quand même exceptionnel.
C'est pour ça que ce sont des grands joueurs.
Ouais, leurs trois de devant sont très forts. Salah m'épate de plus en plus parce que moi je l'ai connu très tôt ce joueur et pendant très longtemps il a été bien meilleur dans mon équipe FUT parce que je le prenais tout le temps que sur le terrain où il était, je le trouvais assez souvent irrégulier. Et là. Ça a commencé l'année dernière.
Moi, c'est physiquement qui m'impressionne. C'est physiquement qui m'impressionne.
Parce qu'il n'était pas comme ça. Il y a une vraie progression, et tant mieux pour lui d'ailleurs. Et là, je le trouve. C'est même pour dire, je le voyais même pas à ce point technique. Qu'il aille très vite, qu'il soit capable de faire des différences. Il n'était pas super habile dans les phases de finition. Tu vois, il pouvait y avoir un parallèle un peu lointain ou pas tellement lointain à un moment avec Gervinho. Tu vois, il pouvait me faire penser. Mais erreur totale, ça n'a rien à voir en fait. Il est beaucoup plus lucide, beaucoup plus technique. Il pourrait même jouer en position un peu plus reculée avec la technique qu'il a. Il a vachement gros progrès de ce joueur-là qui dans la ligne de 3... Peut-être celui qui... Non, parce que j'aime beaucoup Sadio Mané aussi. Non, vraiment, leur ligne de trois offensive,
elle me plaît beaucoup. Est-ce que c'est un tueur aussi,
Est-ce qu'il faut mettre un bémol sur le niveau de la défense de City, où on se dit qu'en face, il y avait quand même des phénomènes?
Mais
est-ce que Stones, par exemple...
Il a toujours existé sur la défense de City. Le problème, c'est que avec la force de cette équipe et avec les choix de Guardiola, tout est fait pour les masquer.
Ouais, bien sûr.
Ces choix, parce que tu joues haut, parce que tu récupères tout le temps le ballon, parce que c'est toi qui l'as, le ballon, plus tu là, moins on voit tes faiblesses défensives. Mais tu sais, Liverpool, leur défense, c'est franchement pas terrible.
Philippe, qu'est-ce que t'en penses?
Ah, pardon, Philippe.
Non, mais je suis totalement d'accord avec Daniel. Et j'ajouterais une chose, c'est que quand tu as le bonheur, le privilège d'assister à un match comme celui-là, comme on l'a fait cet après-midi, je pense qu'il y a des moments où les bémols, il faut arrêter de les mettre et il faut surtout remercier deux équipes de nous fournir un spectacle comme celui-là.
Bien sûr.
Oui, tellement généreuse, excusez-moi, dans l'effort et puis dans la créativité, cette volonté de créer du jeu en permanence, c'est un bonheur absolu. C'est pour ça qu'on va dans les stades, c'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour voir des choses comme ça. Il y a des petits manques.
Combien de fois on s'entend dire nous ici, Philippe, qu'un garçon comme Otamendi, joue quasiment au milieu de terrain avec City, tellement ils sont hauts, etc. Ça, quand tu joues contre Liverpool en feu comme ce soir,
si t'arrives à les presser, défensivement, ils sont friables.
Bien sûr,
pas de problème.
Bien sûr.
Mais en même temps, c'est de l'intelligence, parce que c'est pas de l'intensité qui est mise n'importe comment. Je pense qu'on pourrait faire une analyse très approfondie, je pense que ce que Guardiola va la faire et le club va la faire également, mais de la façon de le pressing de Liverpool sur le back four, sur la ligne de 4 de Manchester City et sur Ederson, c'était pas un pressing à l'aveugle, c'était un pressing, moi ce qui m'a frappé, j'étais à côté de Mark Schwarzer, vous savez, l'ancien gardien de la section australienne, et on se regardait, on en causait, on se disait, mais ils pressent pas sur l'individu, ils pressent sur les lignes de passe, c'est hyper intelligent. C'est hyper répété à l'entraînement, visiblement.
Bien sûr.
Affaire à deux grands entraîneurs, l'un face à l'autre.
C'est du club, ça.
C'est du bonheur. Mmh. C'est tout simplement du bonheur à regarder, à analyser, à savourer. Et à savourer dans l'instant également, à se laisser prendre. Et je te dirais, on était là, nous, on est dans la tribune de presse. Et on était comme tous les autres, on se levait.
L'ambiance devait être extraordinaire, Philippe.
Parfait. Philippe, merci. On te retrouve demain, évidemment, comme tous les lundis.
Absolument.
On aura le temps de détailler à la fois cette rencontre, mais également Bournemouth, qui a battu Arsenal 2-1.
Oh là là, oui.
C'est ça. Salut, Philippe. À demain. Pierre, merci.
Bah, merci à toi, Jean-Louis.
Daniel, tout de suite.
Salut, les amis.
C'est le RMC.
Bonne émission.
Tu remontes.
Tiens, vu que t'es là, pour une fois, t'as quand même été.
Bah, je vais passer dire bonjour.
Viens dans l'émission de poker, Jean-Louis.
Voyons. Et moi, j'arrive après l'émission pour revoir la première mi-temps du PSG.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous comprenez pourquoi vous êtes en désaccord comme ça. L'after revient demain, évidemment, entre 22h et minuit. Puis, tout au long de la semaine, je vous rappelle que le PSG s'est imposé 1-0 à Nantes un peu plus tôt. Lyon et Angers ont fait match nul, un but partout. Victoire de Saint-Etienne, 2-0 face à Toulouse. Et puis, on en parlait avec Philippe Auclair. Victoire très spectaculaire de Liverpool, 4-3. Allez sur rmcsport.fr également pour toutes les images et les réactions autour de Monsieur Chaperon. Bonne nuit tout de suite, RMC Poker Show.
Durant une heure, RMC met carte sur table, c'est le RMC Poker Show.